Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrez votre Bible au chapitre 10 de Jean. C'est une partie très familière de l'Écriture, et c'est un texte assez long, qui pénètre profondément dans le 10e chapitre, plus loin que là où nous allons aujourd'hui, en regardant le vrai berger. C'est l'une des plus belles images de mots de tout le Nouveau Testament. Il est appelé une parabole, au verset 6, une paromia. Ce n'est pas une parabole, parce qu'elle ne commence pas par « le royaume de Dieu est comme ». C'est une image de mots et, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'une des images de mots les plus magnifiques de toutes les Écritures. C'est une image de mots qui ne se trouve pas uniquement dans ce passage. Jean 10 s'appuie vraiment sur l'image du berger, qui couvre l'Écriture, du début à la fin. Je me suis retrouvé à dire « Je ne peux pas imaginer un mot plus encourageant à donner à nos missionnaires, ainsi qu'à nous tous, que de regarder cette image incroyable. Il s'agit du vrai berger. » Et son contexte est très important. Vous noterez qu'il n'y a pas de véritable rupture entre les chapitres 9 et 10. Je sais qu'il est dit, chapitre 10, mais c'est le même jour, la même scène, les mêmes personnes. Et Jésus répond au même événement. Le chapitre 9 parlait d'un aveugle-né qui était devenu un mendiant, et Jésus lui a donné la vue. Puis vous vous souvenez que le mendiant et Jésus ont été confrontés aux dirigeants d'Israël, qui n'ont montré que du mépris pour le mendiant, et rien d'autre qu'une haine violente pour Jésus. Ils ont jeté le mendiant, et ils avaient l'intention de tuer Jésus. Dans un sens, les principaux personnages du chapitre 9 sont les dirigeants d'Israël, et ce sont de faux bergers, qui dévorent et qui volent leur peuple. En contraste avec cela, au chapitre 10, aux mêmes disciples et aux mêmes pharisiens, avec le mendiant aveugle qui se tenait là, et le reste des Juifs rassemblés, Jésus contraste avec eux et dit en fait au verset 11 « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je veux que nous regardions simplement les 10 premiers versets. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Avec ce verset, il décrit les pharisiens et les faux bergers. Ce sont des voleurs et des brigands qui n'ont aucune autorité, aucun droit, et aucune propriété sur les moutons qu'ils cherchent à voler et à détruire. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Les dirigeants d'Israël étaient des voleurs et des brigands qui venaient tuer, qui venaient détruire. Jésus est le vrai berger, venu pour donner la vie. L'image du berger est simplement une image de mots. Comme je le dis, Jésus ne s'identifie même pas comme le berger jusqu'au verset 11. L'histoire se tient en quelque sorte par elle-même, parce qu'elle est si familière à la population de Jérusalem et de Judée. Non seulement ils comprenaient la réalité agraire du berger et du soin d'un troupeau, mais ils en savaient suffisamment sur l'Ancien Testament pour savoir que Dieu lui-même était présenté comme un berger. Ils ont donc compris l'aspect temporel et terrestre de la pastorale, mais ils ont également compris que c'était une illustration du souci de Dieu pour son propre peuple. Sur le plan humain, le berger était très courant en terre d'Israël. La partie principale de la Judée est un plateau central. Il est très rocheux. Ce n'était pas bon pour les cultures. Et donc, il est devenu le lieu où les moutons paissaient. De Bethel à Hébron, il y a un plateau d'environ 56 kilomètres de long et peut-être 24 à 27 kilomètres de large. Le sol est rugueux et caillouteux. L'herbe était clairsemée, mais c'était là que les moutons paissaient normalement. La figure familière des collines de Judée et du berger était connue de tous. La vie du berger, cependant, était dure. C'était ardu, c'était à l'extérieur, contre tous les éléments, la chaleur et le froid. Il y a peu d'herbe dans la région. Les moutons ont tendance à errer. Il n'y a pas de mur de protection là-bas, sur le plateau, ni à flanc de colline, ni où qu'il soit. Les trois plateaux étaient bordés de précipices et de crevasses, dans lesquelles les moutons pouvaient tomber. Facile pour les moutons de se perdre, et facile pour les prédateurs de les attaquer, de les tuer. La tâche du berger était une vigilance implacable, une attention constante. Le danger était omniprésent. Le danger des animaux, le danger des voleurs et des brigands qui venaient voler les moutons pour la laine et pour la viande. Un écrivain historique dit que la nuit, vous rencontrez le berger, et il revient au bercail sans sommeil, battu par le temps, appuyé sur son bâton. Chaque jour était une journée longue et ardue. Il y avait des bergers dans l'Ancien Testament, qui étaient bien connus du peuple juif. Abraham était un berger. Isaac était un berger. Jacob était un berger. Moïse était un berger. Il s'occupait des troupeaux de Madian, les troupeaux de son beau-père. David était un berger. Une vigilance constante, un courage intrépide, un amour patient pour son troupeau étaient les caractéristiques nécessaires d'un bon berger. Mais le berger le plus connu de l'Ancien Testament était Dieu. Le psaume 23 dit « Le Seigneur est quoi, mon berger ?» Psaume 77-20 dit « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau. » Le psaume 79-13 dit « Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrons éternellement. » Le psaume 81 dit « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. » Le psaume 95 dit « Car il est notre Dieu. » Et nous sommes le peuple de son pâturage, des troupeaux que sa main conduit, c'est-à-dire qu'un berger devait être très intime avec son troupeau. Mais je veux que vous remarquiez une partie de l'Ancien Testament. C'est dans le livre du prophète Ézéchiel, c'est le chapitre 34. Et je veux que vous cherchiez ce passage. Cela nous donne une image dramatique du contraste, dans Jean 9 et 10, entre les faux bergers d'Israël, à l'époque de notre Seigneur Jésus, en tant que vrai berger. Ézéchiel 34. La parole du Seigneur vint à Ézéchiel le prophète, et c'est ce que dit le Seigneur. Verset 2. Fils de l'homme. C'était un nom par lequel Dieu a identifié Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur, aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtu avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes. Et ne faisait point paître mes brebis. Et à cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et ne seront plus pour eux une proie. Puis le verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Dieu dit, je les retirerai d'entre les peuples, les nations, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. De quoi cela parle-t-il? Ça parle du royaume millénaire, le royaume à venir. Comment le Seigneur va-t-il faire cela? Qui va prendre cette responsabilité? Descendez au verset 23. J'établirai sur elle un pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera le prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Attendez une minute. David a vécu bien avant cela. De qui parle-t-il? Il parle du fils de David, nul autre que le Messie. Le Messie deviendra le seul berger qui rassemblera son peuple, non seulement d'Israël, mais de tous les pays et de toutes les nations, et il le conduira dans la gloire du royaume final. Une magnifique photo. Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. C'est le royaume. Lorsque le Seigneur, par l'intermédiaire d'un seul berger, le grand berger, le Seigneur Jésus-Christ, rassemble tout son peuple. C'est une prophétie, Ézéchiel 34, accomplie par Jésus. Il est ce seul berger. Revenons de là à Jean 10. Lorsque vous entrez dans le Nouveau Testament, il y a un certain nombre d'endroits où Jésus est appelé ce seul berger. Matthieu 18, Jésus est le berger qui risquera sa vie pour chercher et sauver des brebis égarées. Dans Matthieu 9, Jésus est le berger, celui qui a pitié des gens parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Dans Luc 12, il appelle ses vrais disciples son propre petit troupeau. J'adore comment l'appelle Pierre. 1 Pierre 2, 25. Il l'appelle le Seigneur Jésus, le berger de nos âmes. L'écrivain d'Hébreux, dans le chapitre 13, 20, dans cette grande bénédiction finale, dit qu'il est le grand berger des brebis. Dieu, le berger de son peuple dans l'Ancien Testament. Dieu, celui qui porte le jugement sur les faux bergers et rassemble finalement ses propres brebis dans un lieu de bénédiction finale ultime. Mais tout cela passe par l'unique berger qui est Jésus-Christ. Voilà donc le contexte de cette partie étonnante des Écritures. Il est totalement différent des faux bergers, ces pharisiens qui sont illustrés dans le chapitre précédent. Ils sont comme ceux dénoncés dans Ézéchiel 34. Les pharisiens, les dirigeants juifs, s'étaient installés. Ils s'étaient assis sur le siège de Moïse, a dit Jésus dans Matthieu 23. Ils ont pris quelque chose qui n'était pas à eux. C'était de faux bergers. C'était des bergers mortels. Ils ont volé des moutons. Autrement dit, ils ont pris ce qu'ils possédaient et ils ont abattu les moutons, les détruisant. Mais maintenant, il y a un autre berger, le vrai berger, et ce n'est autre que le Messie. Maintenant, avec cela comme arrière-plan, regardons l'histoire, et regardons-la se dérouler. Cela commence par des mots familiers, qui sont souvent répétés dans l'évangile de Jean. En vérité, et c'est parce que c'est sérieux, solennel et sobre, mais c'est aussi nouveau, c'est frais, c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant. L'image ici est celle d'une bergerie. Vous remarquerez l'enclos au verset 1. Qu'est-ce qu'une bergerie? Chaque village avait dans le village, ou juste à côté du village, une bergerie, simplement un enclos. Dans chaque village, cet enclos était un endroit où les moutons étaient amenés la nuit pour être en sécurité. Ils étaient dans les champs, au pâturage, pendant la journée. Puis la nuit, le berger les conduisait. Les moutons le suivaient. Le berger les conduisait dans la bergerie. Il y a beaucoup d'histoires à ce sujet. Le berger les amenait. Chaque berger du village amenait ses moutons. Et tous les bergers du village mettaient leurs moutons dans une seule bergerie. C'était le lieu de protection. Il y avait donc des moutons dans la bergerie qui appartenaient à différents bergers, mais ils entraient un par un, et le berger arrêterait chaque mouton avec sa verge et vérifierait chacun pour des blessures, peut-être, ou autre chose qui pourrait le déranger ou le préoccuper. Il les vérifiait de la tête à la queue, et en particulier à l'arrière, car ils ont tellement de lanoline dans leur laine que les glandes anales se bouchent facilement, et ils peuvent en mourir. C'était un travail compliqué et parfois très sale. Mais c'était le rôle du berger. Il les laissait passer un par un. Il lâchait sa verge sur la suivante, puis, après l'avoir examinée, le laissait entrer. C'est pourquoi Ézéchiel 20 nous dit qu'un jour, Dieu fera passer son peuple sous sa verge. Ézéchiel 20, 37-38. Et il les laissera entrer un par un. Ainsi, le simple enclos était entouré d'un mur. Et quand la nuit venait, toutes les brebis entraient dedans, une à la fois, afin que chaque berger puisse les examiner. Les villages avaient de nombreux bergers, et les bergers avaient des moutons. Ils n'étaient pas riches, d'une manière générale. Ils n'avaient pas d'énormes quantités de moutons. Ils connaissaient leurs moutons. Ils embauchaient alors un mercenaire. Les bergers allaient se reposer et dormir, après une journée dans les champs. Et un mercenaire, vous remarquerez au verset 12, cela se réfère à « mais le mercenaire, qui n'est pas le berger ». C'est la même chose que le gardien du verset 3. Et son travail consistait à fermer la porte la nuit quand toutes les brebis étaient à l'intérieur et que les bergers allaient à leur lieu de repos. Ils étaient gardiens pour la nuit. Ils étaient responsables de la garde de nuit pour surveiller les moutons. C'était son travail. Le matin, au lever du soleil, les bergers y apparaissaient et ils appelaient leurs brebis. Ils appelaient leurs moutons hors de la bergerie et les ramenaient au pâturage. Seuls les bergers étaient autorisés à passer par le portier. Les voleurs, s'ils venaient la nuit, devaient escalader le mur, et c'est ce que vous avez ici. Vous avez donc les voleurs qui y montent par ailleurs, au verset 1. C'est une image vraiment vivante. Mais que disent ces images? Que regardons-nous? Jésus ne dit pas réellement qu'il est le bon berger jusqu'au verset 11. Mais quelle est l'image? C'est simplement ceci. La bergerie, certains ont suggéré que c'était l'église. Ce n'est pas l'église. Parce que le berger fait sortir les gens de la bergerie. Le berger ne fait pas sortir les personnes de son église. Certaines personnes ont même suggéré que c'était le paradis. Non, il ne fait pas sortir les gens du paradis non plus. C'est assez simple. Vous dites, qu'est-ce que la bergerie? Dans ce cas, c'est Israël. C'est le judaïsme. La bergerie est le judaïsme. Les moutons sont le peuple juif. Le grand berger, le bon berger, le vrai berger, vient dans la bergerie d'Israël, comme le vrai Messie, et appelle ses propres brebis hors du judaïsme. Non seulement cela, allez au verset 16. Cela est cohérent avec ce que nous lisons dans Ézéchiel. J'ai d'autres moutons qui ne sont pas de ce troupeau. Qui est-ce? Une autre bergerie? Je dois aussi les amener, et ils entendront ma voix, et ils deviendront un seul troupeau avec un berger. Il y a un seul berger. Quelle est l'autre bergerie? Les païens. Les nations, les pays du monde, juifs et païens, tout comme Ézéchiel, a promis que Dieu rassemblerait son troupeau de toutes les nations et de tous les pays. La bergerie est donc tout ce qui retient temporairement les brebis qui appartiennent à Dieu, le judaïsme ou le monde. Quelle est la porte? Le berger entre. Le verset 2 dit « par la porte ». Le berger des brebis est autorisé à entrer par la porte. Qu'est-ce que c'est? C'est le privilège, le droit. L'autorité, la propriété. Le gardien ne laissera personne d'autre que le berger entrer. Cela nous indique que Christ est le berger légitime de ses brebis. Il a le privilège d'entrer et d'appeler ses brebis et de les sortir. Il a accompli toutes les prophéties messianiques. Il a démontré par des paroles et des œuvres qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Tout au long de l'évangile de Jean, le Saint-Esprit rend témoignage de lui. Au début de l'évangile de Jean, par les premiers disciples, par Jean-Baptiste, par ses paroles, par ses œuvres, même par la voix des démons. Jésus est confronté à toutes les promesses messianiques. Il est le berger légitime. Il est celui qui a été envoyé du Père pour être l'unique berger, pour conduire les élus d'Israël hors du bercail du judaïsme, dans les verts pâturages et les eaux calmes du salut, qui sont les voleurs qui grimpent par ailleurs, tous les faux bergers. Dans ce cas, les pharisiens, les scribes, les faux bergers autoproclamés et autoglorifiés, qui veulent les toisons et désirent abattre les brebis, les scribes et les pharisiens, hypocrites deux fois plus, font de leurs convertis leurs victimes, les fils de la géhenne, les volant, les massacrant avec leurs fausses doctrines. Les faux bergers sont partout. Ils sont partout tout le temps, pas seulement à ce moment-là, et pas seulement à l'époque d'Ézéchiel, mais tout au long de l'histoire humaine, depuis la chute de l'homme. Il reste encore un faux berger à venir, tout à fait unique, prophétisé dans Zacharie 11, 15. L'Éternel me dit, « Prends encore l'équipage d'un pasteur insensé, car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses, et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Savez-vous ce qu'est ce berger? L'Antéchrist, le dernier faux berger. Ainsi, Jésus, contrairement au faux berger du passé et au faux berger du futur, est le faux berger ultime et le vrai et bon berger, qui ne prend pas la vie, mais la donne. Il se tient là, regardant ses faux bergers ce jour-là, avec ce mendiant aveugle, ici, les disciples là-bas, d'autres là-bas. Il est venu pour conduire les siens, qu'il connaît par leur nom, hors du judaïsme, dans les verts pâturages de la Nouvelle Alliance, et la bénédiction de Dieu fournie par le salut. Là, il contraste fortement avec les faux bergers. Et à lui, verset 3, le portier lui ouvre, parce qu'il a l'autorité et le droit. Il s'ouvre au vrai berger pour qu'il vienne prendre ses brebis, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. C'est une belle image. Les moutons connaissaient la voix de leur maître, comme un animal domestique. Au fait, ils ont donné un nom à leurs moutons. Ce n'est pas difficile à comprendre. Nous nommons les animaux. Vous n'avez pas de chien sans nom. Vous n'avez probablement même pas de poisson rouge sans nom. Les moutons connaissent la voix de leur berger parce qu'ils l'entendaient tout le temps. Ils devenaient familiers. Un mouton pourrait être appelé Jimpy ou Blackie ou autre chose, quel que soit l'idiosyncrasie utilisée ou l'événement utilisé pour trouver son nom. Le berger a toujours connu ses propres brebis car il les examinait tous les jours et il passait toute la journée avec elles. Il connaissait chaque marque sur chacune d'elles. Il les connaissait de haut en bas, d'avant en arrière. Comme ce berger en Israël, le grand berger connaît aussi ses brebis. Il connaît leurs noms parce que leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Il sait qui ils sont. L'image ici est vraiment magnifique. Le vrai berger est venu appeler le peuple juif, hors du judaïsme, pour sortir le peuple païen des replis de la fausse religion et du jugement à travers le monde. Il sait qui ils sont. Il les appelle par leur nom. Ils connaissent sa voix et il les fait sortir. En travaillant un peu avec le matériel de ce livre sur les paraboles, le chapitre d'ouverture est un peu polémique, comme je peux avoir tendance à l'être, et il plaide contre cette tendance aujourd'hui. Les prédicateurs disent que nous devons être des conteurs. Nous devons arrêter avec la doctrine, arrêter avec la théologie, arrêter avec les complexités et la profondeur. Jésus était un conteur. Il a raconté ses histoires simples. Ainsi, ils se sont littéralement fait des ennemis de la théologie dans les histoires. Le livre sur les paraboles a donc un sous-titre. Voici le sous-titre. La théologie du salut de Jésus dans les histoires. Les histoires que Jésus a racontées sont si profondes qu'elles sont presque insondables. Vous commencez à ressentir cela, n'est-ce pas? Tout a commencé assez simplement, et plus vous y réfléchissez, plus vous allez en profondeur. Plus ça devient profondément théologique. Le berger connaît toujours ses moutons. Ils le connaissent toujours aussi. Il les appelle par leur nom. Et les moutons suivent, parce qu'ils connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est-à-dire que vous entrez maintenant assez profondément dans la théologie. C'est une théologie assez sérieuse ici. Une souveraineté divine. Une grâce irrésistible. Un appel efficace. Tout cela est théologique. Que dit notre Seigneur ici? Il nous donne la théologie du salut. Voici la théologie. Le bon berger a déjà choisi ses brebis. Il les a déjà nommées. Il sait qui elles sont. Il possède la pleine autorité et la seule autorité pour entrer dans le judaïsme, dans les nations du monde et les pays du monde pour trouver ses brebis. Il les connaît. Il les appelle par leur nom. Elles reconnaissent sa voix. Elles le suivent. Écoutez cela. Ils ne suivront pas un étranger. Amis missionnaires, je vous le dis, cela devrait encourager votre cœur. Vous ne perdrez aucune brebis de Dieu au profit des faux enseignants que vous combattez. Elles ne suivront pas. Elles connaissent la voix de leur berger. C'est le miracle de la régénération. Jusqu'où cela va-t-il? Je n'ai pas le temps de vous expliquer la profondeur, à moins que vous vouliez être ici jusqu'à 18 heures. Les gens disent, « Oh, vous savez, Jésus a raconté des histoires simples. » Et ici, il parle à ses non-croyants, et il parle à ses disciples, qui sont, en quelque sorte, ils sont assez difficiles à enseigner, parce qu'ils semblent manquer le but de tant de choses. Vous ne voudriez pas leur introduire de complexité. Restons simples. Je ne pense pas. C'est profond. Cela remplit la promesse de l'Ancien Testament, que Dieu rassemblera un troupeau du monde et amènera ce troupeau dans la gloire d'un royaume. Un royaume dans lequel ils ne feront que bénir, bénédiction après bénédiction, et qui entrera dans une condition éternelle de bénédiction. Alors il vient, il les appelle par leur nom. Les brebis connaissent sa voix, elles le suivent, il les fait sortir. Et ensuite nous lisons ceci, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, c'est Ekbalo. Il doit les faire sortir. Il doit. C'est un effort pour les faire sortir de la bergerie. Nous comprenons cela. On pourrait en parler. C'est difficile de croire. C'est difficile de se repentir. La nature humaine y résiste. C'est une bataille pour l'âme, n'est-ce pas? Il les appelle par leur nom. Elles entendent, mais non sans lutte, non sans agonie. Il doit les chasser du confort de leurs conditions mondaines, de leurs pièges religieux. Mais une fois qu'il les fait sortir, il les devance. Et les brebis font quoi? Elles suivent. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mon vrai disciple. Jean 8. Il n'a pas à continuer à nous pousser. Une fois qu'il nous a poussés à travers le miracle de la régénération, une fois qu'il nous a fait siens, une fois que nous avons reconnu sa voix, une fois que nous avons commencé à partager sa vie, une fois que nous avons été libérés de l'esclavage du monde, nous suivons volontiers. Et nous ne suivons pas un étranger. Veuillez noter que le berger mène. Il les précède pour faire le chemin, pour dégager le danger, pour trouver de l'eau, de la nourriture, un pâturage. C'est une sécurité, une protection, une provision. Tout est lié à la sanctification, alors qu'il nous conduit vers la gloire et la bénédiction éternelle. Quel plaisir de savoir tout cela. Et n'est-il pas frappant, vraiment, que Jésus déballe cette théologie étonnante et profonde à certaines personnes qui n'ont aucune compréhension, qui ne comprennent même pas, comme le dit le verset 6, aux disciples qui étaient nouveaux dans leur compréhension. Mais ce sont des vérités que nous devons tous connaître. Il les conduit hors de la servitude. Il les conduit vers des pâturages verts, encore de l'eau. Je me souviens que, quand j'étais jeune garçon, mon père avait un hymne qu'il aimait chanter, et nous l'avons donc beaucoup chanté à l'église. Vous vous en souvenez peut-être. Il me conduit, ô pensées bénies, ô paroles de réconfort céleste, où que je sois, quoi que je fasse, c'est sa main qui me conduit. C'est la réalité. Le grand berger vérifie le danger, prépare le chemin, trouve le pâturage, trouve de l'eau, et nous y conduit. C'est le salut dans toute sa beauté et sa richesse, le salut souverain. Nous suivons, juste un autre commentaire ou deux sur le verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Une conclusion simple. Les gens qui sont fidèles aux faux enseignants ne connaissent pas le vrai berger. Une fois que nous sommes sortis, une fois qu'il nous a jetés hors du bercail du péché, de la mort et du jugement, nous suivons. Nous n'écoutons pas un étranger. Nous suivons fidèlement, pas parfaitement. Nous n'écouterons jamais une autre voix. Soit dit en passant, verset 5, il y a un double négatif. Ou « mais ». Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Matthieu 24:24 dit que de faux Christ et de faux prophètes feront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais est-ce possible? Non. C'est pour cela que cette phrase est là. Ce n'est pas possible. Soyez encouragés, chers missionnaires, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui appartiennent au vrai berger. Ils entendront sa voix. Ils suivront. Ils n'entendront pas la voix d'un étranger. Rien ne peut rompre le lien entre la vraie brebis et le berger. Tout ce que le Père me donne, Jean 6, viendra à moi. Personne ne vient à moi, à moins que le Père ne l'attire. Les voleurs et les brigands, bien sûr, ne pouvaient pas comprendre cela. Au verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus ajoute ensuite une autre image. C'est l'un des « Je suis » de l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Je veux que vous voyez l'image. Voici une deuxième métaphore. Il n'est pas seulement le berger qui vient prendre ses brebis. Il est la porte. Il est la seule issue. Il ne s'agit pas d'entrer, mais de sortir. L'idée d'entrer et de sortir signifie bouger avec liberté quand il vous fait sortir de la bergerie. Ce n'est qu'à travers lui. Lui seul est la porte. Il l'a répété à nouveau au verset 9. Il vous fait sortir et vous êtes libéré de la servitude. Si quelqu'un passe littéralement à travers moi, il sera sauvé. Marquez ce mot. Soulignez-le. Tracez un cercle autour. C'est la première fois que vous passez du mot image de la métaphore à la réalité, à l'énoncé théologique des faits. C'est à propos de quoi? Il s'agit d'être sauvé. Il s'agit du salut. C'est le berger qui sauve. Il sera sauvé. Et alors, il est libre d'entrer et sortir et trouver des pâturages. Nous pourrions dire que c'est la liberté dont nous jouissons. Nous sommes sortis de cette bergerie et nous sommes maintenant libres d'une belle manière, vraiment. C'est vraiment incroyable d'y penser. Mais nous pouvons parcourir le monde. Nous pouvons aller partout. Nous pouvons jouir de la grâce commune de Dieu qui est dispersée dans le monde. Nous avons le droit de profiter de tout cela. Nous n'avons rien à craindre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ? Quelque chose peut-il nous séparer? Romains 8. Absolument rien ne peut nous séparer. Alors nous entrons et sortons, et cela montre une liberté maintenant. Une liberté. Aucun ennemi ne peut nous détruire. Nous n'avons rien à craindre. Nous sommes en sécurité. Nous pouvons errer librement. Aucune menace n'est tenue au-dessus de notre tête. Romains 8. Il doit être lu souvent, car, par l'utilisation de l'hyperbole, il montre la protection dont dispose chaque croyant. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de notre berger? La tribulation, la détresse, la persécution, la famine, la nudité, le péril ou l'épée? Non. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les pouvoirs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous avons un lien avec notre berger, qui ira directement dans le royaume, et ensuite directement dans l'éternité. Ainsi le Seigneur est le berger, et le berger est la porte. Dieu nous nourrit, et nous soutient avec des pâturages verts tout au long de notre vie spirituelle. Nous avons reçu tout ce qui concerne la vie spirituelle et la piété, n'est-ce pas? Toutes ces choses, entièrement soutenues, entièrement fournies. Mais qu'est-ce que c'est que notre nourriture? Quel est ce pâturage? C'est la parole, n'est-ce pas? C'est la parole. Ta parole a été trouvée, dit Jérémie, et c'est ce qui est devenu ma nourriture. Nous entendons sa voix, nous connaissons sa voix. D'où sa voix nous parvient-elle? D'ici, de la parole. Comme l'Esprit donne vie à la parole, nous suivons les Écritures. Nous aimons la parole. Nous disons comme David, « Oh, comme j'aime ta loi, c'est notre plaisir. » Le contraste se termine au verset 10, et c'est saisissant. Les faux bergers viennent voler, tuer et détruire. Je pense que nous tous, et certainement moi, avons été vilipendés par des gens pour avoir exposé de fausses doctrines. Mais je ne pourrais pas être un berger fidèle devant mon propre berger si je ne faisais pas ma part pour protéger les brebis. Si je dis quelque chose contre quoi que ce soit, cela paraît généralement dans certains titres sous une forme tellement scandaleuse que cela incite à la colère et à l'hostilité. Mais ce n'est pas vraiment moi qui suis en colère. Il s'agit de moi qui essaie de décharger une responsabilité compatissante envers ceux qui sont victimes de faux bergers qui ne veulent rien d'autre que les dépouiller de tout ce qu'ils ont, puis les manger. Le voleur vient tuer les moutons. Il y a des histoires intéressantes. Si un voleur venait la nuit et escaladait le mur, il aurait du mal à sortir les moutons volontairement, parce que les moutons ne connaissent pas sa voix. Si souvent, il coupait la gorge du mouton dans la bergerie et la jetait par-dessus le mur. Il le savait. Il connaissait le genre de travail que faisaient les voleurs. Il prenait la laine et mangez ensuite les moutons. Le voleur vient tuer, vient détruire, après avoir volé. D'un autre côté, je viens pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient périssos, par-dessus. Qu'est-ce que le salut alors? En résumé, le Messie vient, le Sauveur vient. Il vient au bercail du judaïsme et au bercail du monde païen. Ses brebis lui sont déjà connues, parce que le Père les a identifiées, leur a donné un nom, et l'a écrit avant la fondation du monde. Il sait qui elles sont. Il entre par la porte, parce qu'il a la pleine autorité et le droit de le faire. Hors du monde et hors du judaïsme, il choisit les siens, les appelle par leur nom. C'est une grâce irrésistible. C'est l'appel efficace. C'est un appel à la vie. C'est la régénération. Elles suivent. Elles suivent parce que c'est une œuvre surnaturelle de Dieu qui les tire hors du péché et de la mort, des ténèbres et de la cécité. Elles suivent. Elles connaissent sa voie. Elles le suivent. Elles le traversent, lui seul étant la porte. Elles sortent, puis elles parcourent le monde et bénéficient de toute la richesse et de la protection que leur berger leur fournit. C'est le salut. Un jour, nous en profiterons à un niveau qui a été décrit par Ézéchiel 34, dans le royaume millénaire, lorsque la terre sera complètement rajeunie et restaurée, et qui sera suivie de l'état éternel. Malheureusement, les faux bergers et les faux enseignants détruisent les gens. Pierre dit que beaucoup suivent leur voie pernicieuse. Je voudrais terminer en regardant quelque chose que Pierre a écrit. 1 Pierre 5. Vous pouvez regarder 1 Pierre 5 pendant une minute, juste pour mettre les choses en perspective. Ceci est pour moi et pour vous tous qui servez le Seigneur en tant que missionnaires, pasteurs et dirigeants. J'exhorte les anciens parmi vous, en tant qu'aînés et témoins des souffrances du Christ, participant aussi de la gloire qui doit être révélée. C'est Pierre qui dit ceci. Faites paître le troupeau de Dieu. Quelle belle description. Le troupeau de Dieu. Quelle responsabilité qui donne à réfléchir. De faire paître le troupeau de Dieu. C'est ce que nous faisons tous. Ceux qu'il a identifiés, ils lui appartiennent. Il les a appelés. Ils sont venus. Ils ont entendu sa voix. Ils suivent. Ils suivront jusqu'à ce qu'ils entrent dans la gloire éternelle. Faites paître le troupeau de Dieu en exerçant une surveillance, non sous la contrainte, non parce que vous devez, mais volontairement, juste pour le privilège de celui-ci, selon la volonté de Dieu, et non pour un gain sordide. Pas pour de l'argent, mais avec empressement, pas en tant que maître de ceux qui sont attribués à votre charge, mais en se révélant être des exemples pour le troupeau. C'est sensationnel. Nous devons donc ressembler au Christ pour le troupeau. Nous gardons littéralement le troupeau de Dieu en tant que sous-berger sous Christ, qui est le berger en chef. Puis le verset 4. Quand le chef des bergers apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire éternelle. Je pense que lorsque nous arriverons au ciel, nous connaîtrons le Seigneur Jésus comme le berger en chef, et il aura pour tous les sous-bergers fidèles la pleine richesse de la couronne, de la gloire éternelle. Soyez donc encouragés, fidèles missionnaires. Le Seigneur connaît ses brebis. Il les a choisis. Il les a nommés. Le seul berger, le Seigneur Jésus-Christ, possède la pleine autorité pour venir dans ce monde et appeler ses brebis. Il les appelle hors de ce monde. Il les appelle à lui. Il les appelle par leur nom. Elles suivent toutes. Elles ne suivront personne d'autre. Le Seigneur les conduit de la bergerie du monde vers les bénédictions du salut, dans cet âge, l'âge à venir et le royaume éternel. Il va devant elles pour leur fournir tout ce dont elles ont besoin et leur donner une protection complète. Il vous a appelé à être ses sous-bergers dans ce merveilleux ministère. Père, nous te remercions de nous avoir donné cette riche parole, et nous savons que nous venons de gratter la surface de toutes ces choses. Mais cela suffit pour presque nous submerger. Que ta parole est magnifique, comme elle est vraie. Chaque passage brille comme un diamant glorieux, mais en parfaite harmonie avec tous les autres passages. Plus nous les lisons, plus ils brillent clairement, comme ayant été coupés par un esprit divin. Nous te remercions pour cette vérité. Merci de nous appeler tes brebis. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir dit aussi que quiconque vient à toi, tu ne te détourneras pas de lui. Nous prions aujourd'hui pour que ton Saint-Esprit puisse inspirer le cœur de ceux qui sont à toi, mais qui n'ont pas encore été appelés. Appelle-les aujourd'hui, de peur qu'ils ne vivent un autre jour sans les bénédictions et les avantages de ta provision et de ta protection. Appelle même certains de cette congrégation aujourd'hui, ainsi que partout dans le monde, où la vérité est proclamée, dans ton troupeau. Libère-les des limites, des restrictions du monde. Laisse-les libres d'entrer et de sortir et de trouver la bénédiction. Fais ton travail, nous t'en prions. Père, nous te demandons de faire ce que nous ne pouvons pas faire avec certitude et d'accomplir ta volonté dans chaque vie. Nous prions au nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.